Bonsoir à tous. Bonsoir Sorge Chalandon.
Bonsoir.
Nous sommes avec vous pour le livre de Kels aux éditions Grasset. Quel rapport entretenez-vous avec le doute? Et bienvenue à la librairie Mollard.
Ça me fait plaisir cette question parce que le dernier interview que j'ai fait, c'est alors de quoi il parle ton bouquin?
Ouais.
C'est très au-dessus.
Pour l'instant, non. Il nous reste une heure.
D'abord, à vous demander de bien vouloir m'excuser parce que j'ai un problème de dos, de colonne vertébrale et c'est pour ça que je suis un peu. Voilà. Je suis avec une petite canne et tout, mais non, je ne suis pas. J'ai un pied dans le doute, mais pour l'instant, c'est tout. Le doute, c'est ce qui a manqué à mon père, c'est ce qui a manqué à mon éducation, c'est ce qui a manqué à ma famille. J'ai été élevé par quelqu'un qui ne doutait de rien. Et nous doutant de rien, il était idiot. En fait, il était d'une violence extrême. Il était d'une incapacité absolue à comprendre, à s'ouvrir, à réfléchir, à aimer les autres, à les soutenir, à les accueillir. Et donc, j'ai appris le doute tard, en fait. Et j'aime bien, parce que j'ai toujours pensé... Mon père disait que le doute était une faiblesse. Il disait pas en ces termes-là, ce qui aurait été formidable. Il disait « Ouais, sois pas une nana ». Voilà, ce qui était pas tout à fait la même chose. Et donc, pour moi, le doute, je l'ai appris sur le tard, et j'ai appris que c'était une richesse. Mais ça a été très compliqué pour moi. Ça a été très compliqué à accepter que douter, c'était pas être moindre que la personne qui avait des arguments en face de moi, ou que quelqu'un qui me parlait, ou quelqu'un qui affirmait, ou quelqu'un qui... Mais que non, c'était bien. Le doute me permettait de l'écouter avant de prendre la parole à mon tour. Et donc maintenant, à mon âge, donc 42 ans, le doute est devenu pour moi quelque chose qui fait partie de ma vie. Et donc je pense que si vous parlez de ça, c'est parce que dans ce livre, je dis que j'ai été compagnon de route de gens et je suis devenu compagnon de doute après.
Oui.
Et c'est vrai qu'avant le doute, il y a eu la route.
Alors, dans ce livre, on s'interroge sur ce que vous avez dû déconstruire, comme vous le dites très juste.
J'aime bien ce mot, en fait.
Maintenant.
Ouais.
Et donc, dans la liste, il y a le doute et il y a la violence. Comment on quitte la violence?
Mais comment on y entre, déjà? Parce que je trouve qu'entrer dans la violence, c'est quelque chose qui ne nous ressemble pas, en fait. C'est quelque chose qui est... Alors là, on parle... Je pense que pas que vous l'ayez lu, mais on parle de... Moi, je sors de la violence familiale, qui est quelque chose d'une extrême cruauté pour un enfant. Et j'ai connu la violence politique aussi, à une époque où la violence était générale. Là, je parle pas, tout le monde parle de 68, mais là, je parle de 70, 71, 72, où la violence était 70, 71 surtout. Mon problème à moi, c'était de me débarrasser de la violence que mon père avait mise en moi. Mon père m'avait légué une violence extrême, puisque... Je suis désolé de dire ça parce que comme je sais pas à qui je parle, mais mon père a été notamment dans l'armée allemande, donc il me frappait lorsque j'étais tout petit. Il me frappait en hurlant en allemand. Il y avait des chants nazis à la maison sur le pick-up, et cette violence là était sans cesse. Et il avait mis quelque chose en moi qui était cette violence là, l'essence de cette violence là. Et pour m'en débarrasser, il a fallu aussi que je passe par cette violence, c'est-à-dire que une autre violence, parce qu'elle était dirigée plutôt contre des gens qu'il aimait lui, c'est-à-dire des gens plutôt de son bord politique. Mon père se disait SS, qui dans les années 60 était quand même assez paradoxal, mais je n'avais pas de doute. Il m'a pas élevé dans le doute. En revanche, il m'a élevé dans la violence. Il a fallu que j'apprenne l'un et que je me débarrasse de l'autre. Mais pour les deux, il a fallu que je les éprouve d'abord.
Et dans ce livre, en fait, on est avec vous sur à peu près 4 ans, enfin oui, un peu moins, comme vous le dites, entre 68 et 73. Vous avez 16 ans, vous quittez le domicile de vos parents avec pas grand-chose en poche.
Je m'enfuis, mais...
trésor.
Je m'enfuis.
Et vous passez d'abord une année dans la rue, et ensuite, oui, vous allez trouver une famille, cette famille étant des compagnons de combat, donc de ce qu'on va appeler les années 68, bien qu'il n'y en ait qu'une, et qui sont des gens d'extrême-gauche.
Oui.
J'ai du mal à dire ça parce que dans votre livre, c'est bien plus précis que ça. Alors, je suis prudente.
Non, mais oui, mais ça, c'est pas grave. Disons voilà. Disons que ce ne sont pas ce sont pas les gens que mon père aime.
Voilà.
Voilà.
Et dans, alors, que ce soit dans la rue ou après avec ces gens-là, parce que c'est aussi le moment où vous croisez dans la rue le GUD, l'Ordre Nouveau, des gens qui sont d'extrême
Occident.
Droite. Voilà. Et vous êtes au cœur d'une violence extrême.
Oui.
Et d'ailleurs, on dit de vous dans ce groupe que vous n'avez pas l'air comme ça, mais que vous êtes un sacré combattant. Ce qui a dû, en tout cas, je vous pose la question, Serge Chalandon, être perturbant, non?
Oui et non, parce que toute l'époque était violente, en fait. L'époque était violente, c'est-à-dire que les gens à l'extrême gauche ou les gens à l'extrême droite... Raymond Marcellin, notre ministre de l'Intérieur de l'époque, nous avions des ministres à l'époque qui étaient nommés, qui restaient un petit peu, et avait dit si ça continue, je demanderai à mes hommes de tirer dans le tas. On imagine un ministre de l'Intérieur qui dit que ses hommes vont tirer dans le tas des manifestations. C'est-à-dire que la violence était... C'est terrible. Lorsqu'on y repense maintenant, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les Black Blocs, etc. Mais la violence était un moyen d'expression comme un autre quasiment. Et donc, il arrivait que des fois, les rues s'embrasent littéralement par la violence. Et donc, on ne se disait pas, tiens, c'est bizarre ce qu'on fait, c'est violent. C'était comme si nous continuions la politique par d'autres moyens.
Mais vous n'avez jamais dit, quand vos compagnons de route à ce moment-là vous disent, bah, dis donc, toi, t'as pas l'air, mais quand même, au combat, tu dépotes. Vous n'avez jamais dit, bah oui, mais en fait, moi, je viens d'un endroit où c'était le vocabulaire. Vous l'avez
alors,
jamais dit?
D'abord, j'avais du mal. C'est-à-dire que... Alors, souvenons-nous, pour les plus anciens ou pour les plus jeunes, la guerre n'est pas très loin. C'est-à-dire que moi, je suis encore... un écolier à l'époque où on se demande encore en classe qu'a fait ton papa ou ta maman pendant la guerre. C'est-à-dire, ça reste un curseur. Est-ce qu'il était dans la résistance où tout le monde y était? Évidemment, il n'y avait pas... Non, c'est vrai, il n'y avait pas assez de brassards FFI pour tous les bras de France. Mais en tout cas, c'est un moment... Enfin, je parle de fin 44. C'est un moment où ce qu'avait fait le père ou la mère comptait infiniment. Moi, le problème que j'avais... c'est que mon père, je n'en étais pas sûr. C'est-à-dire que mon grand-père m'avait dit que j'étais, je cite, un enfant de salaud. Mon grand-père m'avait dit qu'il avait vu mon père habillé en allemand dans la rue pendant la guerre. Donc, par rapport à tous mes petits copains juifs ou goy, enfants de déportés ou enfants de résistants ou enfants, etc., moi, j'étais le petit mouton noir en n'osant pas dire que je pensais que mon père a été un collaborateur. Il a fait plus que ça puisqu'il était carrément dans l'armée allemande. Mais donc je n'osais pas aborder ce sujet avec eux. Et quand on chantait, lorsqu'on partait au combat, dans la rue, en chantant « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux », j'avais toujours quelque chose au fond de moi comme si mon père se fichait de moi, j'étais le seul évidemment dans cette position-là, mais que comme si j'avais quelque chose à expier qui était très particulier. C'est-à-dire que lorsque tu as un père qui te frappe en hurlant en allemand et qu'après tu es avec des jeunes qui combattent les idées de ton père, qui ont d'autres images, puisque avec Ordre Nouveau, Occident, Tixi-Vignancourt, des gens qui étaient habillés avec les uniformes noirs, croix celtique, etc. J'ai l'impression de continuer à me battre contre mon père dans la cuisine. Mais je le garde pour moi parce que j'ai honte de ça. J'ai honte de plusieurs choses. Et c'est pour ça que j'ai mis tant de temps à écrire ce livre-là. Oui, c'est très compliqué d'assumer d'où je viens, d'un père qui a fait ça. Je suis de Lyon en plus. Et lorsque j'étais petit, mon père me disait en gros qu'il avait travaillé avec... Jean Moulin, c'était une merveille. Et puis non, en fait, c'était pas exactement ça, c'était même plutôt le contraire. Et tout ça, il faut que je l'accepte, il faut que je le digère, que mon père soit cet homme-là, que cette violence-là me vienne de lui, que j'ai été dans la rue avant de les rencontrer, que j'étais obligé de voler pour vivre. Tout ça, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc, je ferme tout ça. Et donc, je m'enferme dans une violence qui va être utile, pas parce qu'il y avait une violence utile, entre guillemets, hein, des deux côtés, mais je m'enferme dans une violence dont je tairai la provenance. Je ne dirai pas, je suis comme ça parce que mon père, je suis comme ça parce que mon éducation, je suis comme ça Mais c'était juste un moyen pour moi d'expression. J'ai été, peut-être même ici, j'en ai parlé il y a très longtemps, j'étais extrêmement bègue lorsque j'étais enfant. Et le bégaiement, c'est le seul handicap qui fait rire, en gros. Voilà, tu as un problème de jambes, de bras, etc. Personne ne rit, tu bègues, tout le monde rit. Et le seul moyen que j'avais trouvé pour que les rires cessent lorsque j'étais petit, c'était les poings. C'est-à-dire que je faisais exactement ce que mon père faisait contre son fils. Quand quelqu'un disait « il est bègue », une fois qu'il était par terre avec le nez en sang, ce qui n'est pas bien du tout, mais au moins les rires s'arrêtaient. Au moins le mépris s'arrêtait aussi. Et du coup, je pensais que j'avais trouvé un moyen d'expression qui était pas bien, qui n'était pas humain, qui était dégueulasse. Mais c'était moi, petit bonhomme, le seul moyen que j'avais pour que les rires cessent, pour que le mépris cesse, pour que la méchanceté cesse, c'était la violence. Et mon père m'avait éduqué dans cette histoire-là, l'histoire de la violence, dont il a fallu ensuite que je me débarrasse.
Et vous en êtes débarrassé par l'écriture, pas seulement de livres, puisque vous avez été un très grand journaliste.
1m60. Là, je me tasse en ce moment à cause de ma. Moi, je tiens beaucoup au mot reporter. Je crois que j'ai été. Alors, j'aime pas le mot grand reporter. Je pense que tous les reporters sont des reporters. Il n'y a pas de grand, de petit, mais je me sens plus reporter. C'est-à-dire que un jour, j'ai un rédacteur en chef qui me dit il y a deux sortes de journalistes. Le journaliste de l'écrit, non, du savoir. Et le journalisme du regard. Et toi, t'es le journalisme du regard. Et ça me va très bien. Moi, je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes, surtout en ce moment, je sais pas si vous écoutez les informés, etc., mais ils savent. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont en ce moment à l'Élysée, ils ont les mêmes informations que nous, à part deux ou trois personnes qui les interrogent, enfin, qui les informent, pardon. Mais moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Moi, ce que je veux, c'est me remplir de ce que les autres pensent, de ce que les autres vivent, de ce que les autres croient, de ce que les autres espèrent. Et donc, moi, je suis reporter. Je ne suis pas un informé, je ne sais pas. Il faut que j'aille voir quelque part pour comprendre ce qui s'y passe. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les autres dans leur contradiction, dans leur violence, etc. Et c'est, pour moi, c'est ça. Le métier, c'est de rapporter des faits, des propos, des regards, des sourires, des larmes, dans des endroits où on ne peut pas y être. J'ai un très beau souvenir de Libération 1982. Ça s'appelle l'opération Paix en Galilée. C'est Israël qui envahit le Liban. Et il me revient de couvrir le camp palestinien. Et Serge Julie, le patron de Libération, me dit « Écoute, ok, tu vas couvrir le camp palestinien, mais avant ça, je veux que tu ailles prendre des obus palestiniens avec les Israéliens. Tant que tu connais pas la peur des Israéliens, tant que tu n'es pas dans une cave avec les Israéliens, je ne veux pas que tu ailles dans une cave avec les Palestiniens. Je veux que les deux peurs, tu les comprennes, que les deux peurs, tu les sentes, que les deux terreurs, tu les vives, pour être, à un moment donné, pouvoir faire le tri. Ça, c'est pour moi, c'est du grand journalisme.
Et en cela, votre livre n'a jamais été aussi d'actualité.
Alors ça, je pensais pas du tout, oui. Ça, je suis... oui, mais ça, je sais pas.
Alors...
En tournant rond, peut-être un peu, non ?
Votre livre nous interroge beaucoup sur l'engagement, oui. Les limites. Vous abordez la question des limites, puisqu'à un moment donné, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On passe au meurtre, on passe à l'enlèvement, à la séquestration, oui. Qu'est-ce qu'on fait ?
Oui.
Et vous vous dites, ah, là, c'est l'endroit où je m'arrête.
Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos chefs. En gros, il y avait donc un mouvement qui s'appelait la gauche prolétarienne, avec un journal qui s'appelait La Cause du Peuple. Et il y avait des gens dans ce mouvement qui étaient un peu instruits ou un peu fascinés par les Allemands, par les Italiens, qui avaient des choses à expier de leur père. Fascisme des uns, nazisme des autres, nous pas. Alors, je sais qu'il y a eu la collaboration, bien sûr, il y a eu Vichy, bien sûr, mais nous venions, nous, de la France libérée. Nous venions de De Gaulle, nous venions de l'affiche rouge, nous venions de Manouchian, nous venions à dire que notre France à nous, elle n'avait pas à expier ce qui s'était passé pendant la guerre, notre France. Et donc, nous n'avions pas avec les Italiens ou les Allemands ces dérives meurtrières qu'il y a eu après. Mais le problème, et ça, c'était une chose qui était probablement, je crois que l'une des erreurs, mais tragique, c'est que nous sortions de la guerre, justement. Nous sortions de la guerre, ça veut dire que le combat d'une certaine extrême gauche, pas de toute évidemment, c'était nous étions les enfants de la résistance française. On chantait « Il faut reprendre les armes que des traîtres nous ont volées en 45 ». C'est-à-dire que pourquoi, moi j'ai jamais crié ça, mais pourquoi des imbéciles criaient CRSSS? C'est parce qu'ils pensaient que si les CRS étaient des SS, nous on était des partisans. Et que nous, il fallait relever tous ceux qui avaient été fusillés au mauvais rien, etc. C'était nos pères, nous étions leurs fils, il fallait qu'on continue la guerre telle qu'on aurait dû aller jusqu'au bout et ne pas rendre les armes au Conseil national de résistance, etc. C'est-à-dire que nous étions dans une chose qui était figée comme ça. On chantait les nouveaux partisans, nous étions les nouveaux partisans, et nous étions entrés dans une ligne de violence qui était hors du temps, totalement hors du temps. Et il a fallu un temps fou pour d'abord se réveiller, ensuite se dire que non, c'est-à-dire que nous n'étions pas les nouveaux partisans, c'est-à-dire que, ami entendu, ce n'était pas nous. Et le peuple, il était où, le peuple? Parce qu'on vendait la cause du peuple, mais le peuple, il n'était pas là. C'est-à-dire que il y avait des bagarres immenses à Paris, tous les camps ensemble, avec la police au milieu, les pauvres, mais voilà, ils étaient comme ça, ils étaient au milieu. Et quand tu étais au cœur de la bagarre, tu pensais que la France était en insurrection. Et tu, après la dispersion, tu faisais trois rues à gauche ou quatre rues à droite, et puis tu te retrouvais à face d'une petite fille qui pleurait pour avoir son pain au chocolat, d'une maman qui disait « Ah, tu t'es encore sali ». En fait, nous étions en paix. Tout ça était une chimère que l'on avait montée petit à petit, parce que notre problème est très simple. Notre problème était, ce qu'on se disait, c'est partout il y a oppression, il faut qu'il y ait résistance partout, chez les plus pauvres que nous, les plus tristes que nous, les plus arabes, les plus juifs, tous ceux qui sont opprimés parce qu'ils sont, il faut qu'on soit leur bouclier. Sauf que ça, je peux entendre, mais ce bouclier-là était paré des armes de la République, de la résistance, des chants de la résistance, des héros de la résistance. C'est-à-dire que nos vrais héros, c'était Manouchian, Guy Moquet, etc. Erreur totale.
Pourquoi vous écrivez dans votre livre que c'était plus simple, cette époque?
Alors, c'était plus simple, déjà, pour... oui, il y avait une chose qui était plus simple. Avant Munich, donc avant les Jeux Olympiques de Munich, il y avait une chose qui était plus simple, c'est qu'il n'y avait pas... Par exemple, si on prend le problème israélo-palestinien, il n'y avait pas les messianistes juifs d'un côté, il n'y avait pas Allahu Akbar de l'autre. C'est-à-dire qu'on les gens soutenaient la Palestine comme ils pouvaient soutenir à tort ou à raison, mais le Vietnam, etc., c'était dépassionné, déifié presque. Et en plus, ce qui était très simple, c'est que le cri de guerre des gauchistes à l'époque, c'est plus le même, c'est « nous sommes tous des juifs allemands », un peu changé quand même. Et tous nos chefs étaient juifs. C'est-à-dire que Jesmar, Krivine, etc., on ne pouvait pas reprocher à un Krivine qui disait « Palestine vivra » d'être antisémite. Il y avait un truc qui était plus carré, plus simple, et nos vrais ennemis, c'est ceux qui, à l'époque, disaient « la Shoah n'existe pas », par exemple. Et quand on tapait ces ennemis-là, on se retrouvait avec des gens d'extrême-gauche, et à côté, tu avais des gens du Bétard, donc des mouvements sionistes, très dur. Et donc, c'était une sorte de simplicité qui n'a pas duré, d'ailleurs, et qui n'a pas duré, qui s'est effondrée avec Munich, c'est-à-dire que Munich, les Jeux Olympiques, où des Palestiniens abattent des athlètes israéliens, prennent des athlètes israéliens en otage et les tuent. Et là, dans ce mouvement de copains, où ça fait des années qu'on milite ensemble pour les ouvriers, pour les immigrés, pour les sans-papiers, déjà des années qu'on est... Et tout d'un coup, il y a des copains immigrés, arabes, marocains, palestiniens, qui se souviennent que nos chefs, ils sont juifs. C'est quelque chose qui ne nous a jamais effleuré. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui disent « Mais tu savais que le vrai nom de ce chef-là, c'était Benny Lévy, tu savais que c'était... » Je dis « Oui, alors... » Bah, ça explique pourquoi, sur la Palestine... Et brusquement, il y a ce gouffre qui s'ouvre sous nos pieds, et quelque chose d'absolument inattendu, où on se rend compte qu'il y avait un problème qui allait bien au-delà de l'existence d'Israël, de la Palestine, bien au-delà. Déjà, nous sommes donc dans les années 70, et déjà quelque chose qui va nous fracturer et fracturer durablement.
Dans ce livre, vous dites que vous déposez des vœux régulièrement sur des petits papiers. Vous écrivez des vœux et puis vous les glissez dans la rue, hop, derrière un mur. Vous continuez ?
Alors, moins maintenant, parce que j'ai moins de stylos sur moi, mais j'aimais bien, c'est-à-dire que ce que j'aimais bien faire, alors c'est pas un mur de lamentation, c'est pas ça, c'est j'aimais bien retrouver des choses. Donc je glissais des petites choses, genre j'aimerais qu'un jour je puisse, je sais pas quoi, et puis je prenais le petit papier et je le glissais soit derrière un sein d'église ou dans la fracture d'un pont à Lyon ou à Paris, et puis et j'essayais de retrouver le petit mot un mois après, un an après, et je me suis aperçu que je ne retrouverais jamais les petits mots, en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient perdus pour l'éternité, mais je savais que je les avais mis là, et c'est quelque chose qui m'aidait. Lorsque j'étais enfant, j'avais un tout petit lit en pin, et je me glissais sous le lit de pin et j'écrivais la même chose sous les lattes du lit. J'ai eu une montre à Noël, je viens de casser cette montre, mon père ne s'en est pas aperçu, quand, point d'interrogation. Et quand il s'en était aperçu, je tournais sous le lit, puis je barrais, ça y est, c'est fait. Donc j'étais un peu... Et ça y est, ça a été... Et donc j'avais plein de tourments à venir qui étaient inscrits comme ça.
Mais surtout, vous avez toujours écrit, alors, d'une façon ou d'une autre. Des petits mots sur votre lit. Finalement, l'écriture, c'est un truc qui vous est quoi, naturel?
C'est parce que comme l'oralité me semblait interdite à cause du bégaiement, donc l'écriture était pour moi la chose la plus simple. C'est-à-dire que je... Enfin, c'est terrifiant, vous. Lorsqu'on est bègue, on ne peut pas dire « je t'aime ». On ne peut pas. C'est quelque chose qui est terrifiant. L'écrire, on peut. Alors, on peut l'écrire. Alors, c'est un peu ridicule de passer un petit message comme ça. Mais longtemps, j'ai cru qu'effectivement, je n'aurais pas accès aux mots dits et que les mots ne seraient qu'écrits. Et j'ai fait extrêmement attention. C'est une chose, d'ailleurs, que je chasse les mots en trop parce que je t'aime, c'est magnifique. Je t'aime beaucoup, reste plus rien. C'est zéro. C'est quelque chose qui... Et cette chasse aux mots en trop, je l'ai toujours fait et je la fais encore. C'est-à-dire que je me souviens, j'ai donné des cours à des jeunes journalistes à Paris, à Lille, où je leur expliquais que chaque mot en trop tue, qu'il fallait aller à l'os des mots toujours, que plus il y avait de mots dans un article, dans une déclaration, et plus c'était nul, plus il faut pas qu'il y ait trop de mots, jamais. Et je me souviens que l'on avait travaillé sur la plus difficile chose, je trouve, à faire, en fait, c'est le fait divers. Tout le monde peut écrire sur l'économie, l'international, mais le fait divers est le lieu des mots en trop, toujours. Et autant vous prenez, je dis n'importe quoi, mais un peu un journal de gauche, de droite, sur les pages économie, je vous mets au défi, des fois, de savoir quel journal appartient à qui, mais sur le fait divers, tout d'un coup, vous avez les mots qui hurlent un côté ou l'autre, qui hurlent la droite, la gauche, qui hurlent la conscience, la morale ou pas. Et je leur avais expliqué, c'était un article sur le viol. Je leur avais demandé d'imaginer un viol. Aucun n'a écrit le mot viol. Ils ont tous écrit viol épouvantable. Je dis, mais est-ce qu'il y a des viols sympathiques? Le viol porte l'épouvante en lui. Pourquoi rajouter des mots à ce mot-là, qui est le mot majeur de la violence? Pourquoi mettre... Oui, parce qu'on trouve que mettre viol épouvantable, c'est comme un attentat horrible, mais il n'y a pas d'attentat géniaux. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de toujours expliquer ça aux jeunes.
Et dans votre livre, on voit bien, vous racontez beaucoup de scènes auxquelles vous participez, il y a des dialogues, et on a l'impression que vous êtes souvent en position de témoin, que vous ne prenez pas trop la parole.
Alors, parce que d'abord, je suis beaucoup plus jeune qu'eux, parce que je ne comprends pas tout ce qu'ils disent quand j'arrive de chez mon père et que je vois des gens qui s'engueulent sur des différences sur l'antipsychiatrie entre Deleuze, Lacan ou Guattari, je suis un peu embarrassé.
Parce que ce groupe va aussi petit à petit vous éduquer. Et vous par éduquer, alors, vous entendez, vous éveiller à la culture.
M'éveiller à à la littérature,
ouais, c'est ça.
À la culture, aussi, pardon, à la beauté.
Et puis aussi, ils vont vous aider à passer le bac.
Alors, bien sûr, c'est-à-dire que, en fait, moi, je pars, je n'ai rien, j'ai les mains dans les poches. Et tout d'un coup, je me retrouve avec des gens qui ont d'abord ce que je n'ai pas eu, c'est-à-dire une éducation, de la tendresse, une maman qui peut-être les aidait à chasser le monstre qui était sous le lit, ce qui est important pour un enfant avant d'être adulte. Et puis, donc, je suis plutôt en position de... J'écoute et j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de tout entendre, de tout... Et surtout, j'ai l'impression qu'il faut que je rattrape les choses. Il faut que je rattrape les choses. La nouvelle vague, Godard, tout ce qu'est-ce que c'est que ça et là, je me trouve en face de gens qui sont extrêmement bienveillants. Et pas dans le sens de la bienveillance. C'est pas de la charité, c'est de la solidarité absolue. En littérature, en culture... Pour la première fois, je vais dans des musées. Pour une fois, je pensais pas que c'était possible. Pour la première fois, je pleure devant une peinture. Je pensais pas qu'il était possible de pleurer devant la beauté, devant quelque chose qui est tellement immense que je pensais pas que tout ça était possible grâce à eux. Mais là, moi, je regarde. Je me sens pas l'autorisation d'abord. Je me sens pas autorisé. Je me sens même pas la capacité de dire oui, non. Etc. Donc j'écoute, j'apprends. Et une fois qu'après j'ai appris, une fois ça allait un peu mieux. Mais mon travail d'abord, c'était de rattraper tous ces jeunes qui eux allaient. J'avais l'impression, en tout cas, aller vers la lumière. Alors que moi, je venais des ténèbres les plus profondes, les plus noires. Et c'était, ça, je veux dire, je ne me souvenais pas, enfant, jamais, entrer dans un musée. C'est-à-dire que c'est grâce. Enfin, on dit ouais, les Mao, tout ça, les gauchistes. Ok, d'accord, les gauchistes, d'accord. Sauf que c'est grâce à eux que je suis entré dans des musées pour la première fois, où j'ai vu des choses que. Alors, je viens d'une famille qui est très particulière. Bien sûr, heureusement que tout le monde n'a pas été comme moi, mais j'ai eu, tout d'un coup, il y a eu une ouverture à la vie, véritable, bouleversante, une sorte de tourbillon de couleurs, de sensations. Je m'étais enfui, notamment avec La nausée de Sartre. C'est le seul livre que j'avais chez moi, que je cachais un peu parce que mon père détestait Sartre. Il disait qu'il fallait fusiller Jean-Paul Sartre, qui peut-être, je ne sais pas, ça ne m'est pas venu à l'idée comme ça tout de suite. Je pensais qu'il était camusien, mais c'est autre chose. C'est pas du tout ça. Et moi, j'ai que ce livre de Sartre, parce que mon père, les deux seuls livres qu'il avait à la maison, c'était une biographie de Adolf Hitler et un livre sur les Waffen-SS. C'est les deux livres pour démarrer dans la rue, dans la vie dans la rue, c'est aussi, c'est un peu juste. Mais brusquement, avec ce livre-là, parce que j'ai ce livre-là, je rencontre des gens, on va créer Libération, et je vois ce petit monsieur qui parle comme ça, et c'est Jean-Paul Sartre. C'est le monsieur du livre. Et brusquement, quittant cette famille morte, je me trouve dans une vie où des vrais gens marchent, vivent, fument, parlent, etc. Ils sont dans les livres, ils sont dans les films, ils sont dans les pièces de théâtre, ils existent en vrai, et on me l'avait caché. Et ça, tout d'un coup, il y a une sorte d'effervescence qui fait que tu veux tout savoir, tu veux tout comprendre, tu veux tout admettre, et tu es prêt à combattre pour ça si on t'en empêche.
Ça, c'est la joie. Ce que vous avez ressenti ce jour-là, ces moments-là, ça s'appelle la joie. Quand vous avez rencontré Sartre, quand vous êtes arrivé à Libé, quand vous avez rencontré ce tableau, l'enfant malade de Jeanne Carrière, qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez découvert qu'on pouvait être heureux?
D'abord, j'avais découvert que je n'ai pas eu d'enfance. Et ça, c'est extrêmement terrible. C'est-à-dire que je pense que l'on s'en sort pas. Hein. Même si je suis là, on discute, tout ça, mais... lorsqu'on n'a pas eu d'enfance, on s'en sort pas. Voilà. Après, on masque, on raccroche, on raccommode, on pérore, mais on n'a pas eu d'enfance. Voilà, point. Point. C'est-à-dire que les monstres sous le lit, ils sont encore là. Donc ça, c'est une chose. Mais en tout cas, grâce à ces gens que j'ai vus, grâce au journal, grâce à tout ce que j'ai pu vivre, j'ai vu qu'il y avait un autre monde. Cet autre monde existait avec des vrais gens qui existaient. Et des bons sourires, des bonnes têtes, des bonnes gueules. Mon père avait dit, fait extrêmement attention, donc je vous cite, hein, je suis désolé, c'était en pleine guerre d'Algérie qui a beaucoup marqué plein de gens, évidemment, même ici, je suis sûr, et qui a marqué mon père aussi. Et il me disait, fais attention, ne mange jamais de couscous de ta vie, parce que les Arabes écrasent des ampoules dans le couscous, dans la semoule, pour tuer les Français. Mes copains, premier restaurant, c'est pas cher, couscous général, je prends un tagine. Je me doute bien qu'il n'y a pas de verre, mais je leur explique pourquoi je prends un tagine, parce que je viens de là. Et brusquement, je vois ces jeunes qui n'étaient pas du même milieu que moi, pas de même éducation, etc., tout d'un coup, qui me regardent avec une sorte de « Ah d'accord, il vient de si loin que ça ». Et c'est ce loin qu'il a fallu que je rattrape. Dans ce livre, je parle un moment de quelque chose qui restera pour moi immense, parce que je crois que c'est à la mesure de la désespérance qui m'a frappé quand j'ai compris. Je suis invité à une fête, donc voilà, on connaît
des
tous
les moments les plus bouleversants de ce livre.
Mais je trouve que c'est, on connaît tous les fêtes, donc je suis chez des amis et moi je sors de la rue, ça y est, j'ai pris mon premier bain, mais je suis tout pas très à l'aise, et c'est un grand appartement à Paris, donc nous sommes pas des gamins qui sortent de la rue, plutôt fils de bourgeois ou peut-être même de grands bourgeois, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'opulence absolue. C'est un appartement avec il y a à boire, il y a à manger. Je me souviens de viande rouge. C'était absolument somptueux. Et moi, je me mets dans un coin, tout le monde mange, tout le monde boit, etc. Et moi, je n'ose pas. Et tout ce que je fais l'aller-retour avec mon verre d'eau à la cuisine. Et j'ai faim. Et j'ai soif. Et je regarde et je comprends pas comment le maître de la maison, la maîtresse de maison, comment est-ce que les propriétaires comptent ce qu'on a pris comme vin, ce qu'on a pris, c'est à mon ami. Après, lorsqu'on ressort, il était tout content, il avait bien vu. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas mangé? Je lui dis, parce que j'ai pas d'argent. Et là, sur son visage, j'ai vu l'immensité de la différence d'où je venais, où ils étaient, où j'arrivais. Je ne pouvais pas imaginer que dans une société comme la nôtre, il y a une fête comme ça, enfin une fête, un lieu où
où vous êtes invité, où vous êtes le bienvenu et on va vous offrir quelque chose.
Mais c'était
pas imaginable.
Non, c'est absolument pas imaginable.
Il y a une autre scène dans ce livre qui montre votre instinct assez poétique finalement. Vous prenez du LSD.
Oui.
Et en prenant...
Oh, ça va, il y a prescription. Sincèrement, je suppose. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, lèvent la main.
Et en prenant du LSD, vous voyez la couleur du rire.
Je vois la couleur du rire, oui, mais je vois la couleur du rire, je vois la couleur des gens, je vois la couleur...
La couleur des yeux.
Des yeux.
Le chemin pour aller jusqu'au cerveau.
La couleur des regards. Je vois plein...
Alors, est-ce que vous prenez des notes à ce moment-là? Parce que vous dites que vous avez... En racontant
j'ai un peu... Oui, je prends des notes.
Prenez des notes.
Si je me souviens bien, parce que je... voilà, l'acide lysergique, c'est quelque chose qui a été notamment utilisé par les services secrets américains, la CIA, etc. Pas parce que, donc c'est comme les champignons hallucinogènes, ça ouvrirait la conscience, l'esprit, je sais pas quoi, ce sont des conneries, mais il n'empêche que pendant 9 heures, vous êtes empoisonné, ça c'est vrai, et pendant 9 heures, vous avez une perception de la réalité qui est tout à fait autre. C'est-à-dire, et ça, je veux qu'on me l'explique quand même, parce que ça, je suis... avec des amis dans une rue, tout le monde est vilain. Des vilains, c'est-à-dire des sortes de monstres, tout le monde est vilain. Et tout d'un coup, on voit un couple qui arrive, qui est absolument magnifique, somptueux, très beau, tous très beaux. Et on se croise, et d'un mot, on comprend que, alors qu'on ne se connaît pas du tout, on se croise dans une rue, rue de Lappe, à Paris, on se croise dans une rue, et on comprend tous les deux qu'on a pris la même chose. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tout d'un coup, tu sais qu'il s'est passé quelque chose comme ça.
Mais alors, elle est comment, la couleur du rire?
Alors, ça dépend quel rire. Il y a le bon rire, il y a le mauvais rire. C'est-à-dire que sous cette substance, c'est comme s'il n'y avait pas de trahison possible. Le yago devient le yago, mais majeur. Le méchant regard blesse complètement. D'abord, ce qu'il faut que vous sachiez lorsqu'on les prend, c'est que nous sommes tous, il faut dire ça, il est fou, nous sommes tous accrochés par des fils, en fait.
C'est-à-dire que, ça y est, il est fou.
Voilà, il y a des fils comme ça. Moi, je vous regarde, donc nous avons une quantité de fils de toutes les couleurs.
D'accord.
Et puis, je coupe les fils pour regarder ailleurs, vous voyez.
D'accord.
Et tout d'un coup, je sens que vos fils me tapent, donc il faut que je revienne. C'est un truc qui est... 9 heures, c'est extrêmement long.
Ah oui, c'est bien le croire.
C'est extrêmement long et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que, tout d'abord, il faut se souvenir que tu as pris ça, parce qu'autrement, c'est idiot. Pourquoi personne n'a pensé qu'on vole.
Il paraît qu'à
il
l'époque,
de sauter.
On écrivait sur un papier.
Bien sûr.
Son
attention.
Nom, son prénom, j'habite à telle adresse. Attention, j'ai pris du LSD.
Voilà. Et moi, j'ai des souvenirs de policiers plutôt sympathiques qui nous raccompagnaient sur des bancs en
oui,
disant
parce qu'à l'époque, vous êtes à la rue.
Tu vas finir ton trip ici parce que là, c'est dangereux.
Ça va pas. Mais ce carnet de notes, vous l'avez encore ?
Non, parce que le carnet de notes. Donc je découvre des choses que l'on nous cache. C'est pas encore le deep state, c'était pas encore tout ça. Mais tout d'un coup, je comprends. Par exemple, si vous avez une seconde avec moi, si vous mettez votre langue sur votre palais, vous verrez qu'il y a une petite boursouflure comme ça. Et j'ai compris qu'il suffit de pousser, le palais s'ouvre,
oui.
Et avec la langue, vous touchez votre cerveau et au lieu de faire appel à des spécialistes sur le sommeil, etc., vous-même, vous pouvez réguler plein de choses tout seul, mais on nous le cache. On nous le cache. Et donc, j'écrivais toutes ces choses-là, sauf qu'au matin, et ça, c'est une chose, voilà, au matin, il y a écrit sur mon petit carnet qu'il faut absolument que j'apporte à la Société des sciences. Il faut absolument que je dépose tout ça, quand même, parce qu'on nous cache des choses qui sont invraisemblables sur le regard, sur les objets mous. C'est-à-dire, c'est 9 heures de folie absolue, et vous vous réveillez, enfin, vous vous réveillez pas, parce que vous êtes très, très mal, et vous voyez écrit « soleil, jaune, peau ». Tout ce que j'ai écrit pendant 9 heures, c'est « soleil, jaune, beau ».
Alors que vous avez l'impression d'écrire.
Ah mais c'est même pas ça. C'est que toutes les sommités allaient arriver de partout. Mais ce petit... Oui, c'est ça qu'on a et on peut travailler. Non, rien. Mais ça, il le fallait. Il fallait que j'essaye ça parce que j'étais dans la rue. Dans la rue, c'est des gamins drogués, des gamins affamés, des gamins voleurs, des gamins... J'étais avec eux. C'est-à-dire que le seul moyen, à un moment donné, que je m'en échappe, c'est que j'aille au bout de ça.
Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous croisez des gens dans la rue aujourd'hui ?
Alors, la chose la plus importante pour moi, pendant un an de rue, j'ai été enjambé. J'ai été enjambé par la ville, enjambé par les gens, enjambé par... on ne m'a pas vu. Pendant un an, je suis un enfant... J'ai une peau d'enfant, j'ai 17 ans, sans amour, sans tendresse, sans respect, sans trace, sans héritage, sans rien. Et je me retrouve dans le lieu le pire du monde de la solitude. Le pire de la solitude. C'est-à-dire, il n'y a pas de lieu pire, à mon sens. Et la première chose qui m'arrive dans cette rue, c'est que... Donc, j'étais à Paris, la rue me digère complètement. Je suis le mur, je suis le trottoir. Donc, à l'époque, temps béni, il n'y avait pas de digicode aux portes, donc on pouvait dormir sur les paliers des appartements en attendant que les gens se réveillent, donc plutôt dans les étages intermédiaires, la petite bourgeoisie. Parce que l'étage haut, sixième étage, c'est les gens qui allaient, c'est les femmes de ménage qui allaient travailler tôt, donc elles se levaient trop tôt pour nous, il fallait aller plutôt... étage intermédiaire, comme ça, on entend la radio, on entend l'enfant qui chante, on entend le père qui, voilà, on entend le bruit du café, et après, il faut qu'on se sauve. Et le problème, c'est que après on se sauve, on se retrouve dans la rue, et il fait froid, et il pleut, et c'est... Mais personne ne vous regarde, jamais. Et je crois que c'est le pire, c'est pire que la faim. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu tout. Mais le pire, c'est de... Il y a des moments juste en vie, c'est bizarre quand il y avait un beau regard, on appelait ça un soleil. Un beau regard, c'était tiens, ce matin j'ai eu un soleil parce que c'était un regard. Donc aujourd'hui, au moins, ce que j'essaye de faire, c'est de regarder la rue en face, de ne jamais baisser les yeux si on me regarde.
Et est-ce que vous êtes allé à Katmandou finalement ?
Mais jamais. Mais non, je voulais aller à Ibiza, je voulais aller à Katmandou, je voulais être le nouveau Jack Kerouac, je voulais être l'amant de Janis Joplin, je voulais connaître. Et puis un petit peu aussi, voilà, je voulais tout. Mais non, je suis arrivé à Paris comme, comme le lieu, le démarrage de la grande aventure. Je voulais être routard, puis j'ai été dans la rue. Dans la rue, puis un jour, j'entends des jeunes qui vendent un journal. Je suis avec mon sac qui sent le linge mal séché. Et il crie « Non au racisme anti-jeune ». Et je m'approche. Et ce sont eux.
Dans ce livre, vous dites aussi à un moment donné que vous allez acheter une lampe. C'est le premier achat que vous faites quand vous arrivez petit à petit à passer des étapes.
Vous avez très bien lu. Personne ne m'a parlé de la lampe. Ouais, c'est les lampes...
Voilà, très psychédéliques lampes... des années 70. Je la vois très bien, votre lampe. Là.
La lampe grotesque à huile, voilà. Comme ça. Et pourquoi je me suis acheté ça? Parce que c'est le truc qui ne sert à rien.
Non, vous écrivez dans votre livre... L'achat de l'insertion, en fait.
C'est-à-dire... Oui, c'est l'achat de l'insertion. C'est-à-dire voilà. Ça ne sert à rien.
Donc, c'est vital.
Donc, c'est vital. Mais en plus, j'ai acheté quelque chose qui ne sert à rien. C'est-à-dire, je n'ai pas acheté de pain. J'ai acheté une lampe qui rouge et bleue, qui fait comme ça. Et tout d'un coup, mais c'est ça y est, j'ai accédé à la classe supérieure. J'ai ma petite lampe qui ne sert à rien. Et c'est formidable. Parce que alors ça, c'est quelque chose qui m'a... J'étais à mort. J'étais en Suisse. Et j'expliquais aux gens que quand... que quand j'ai fait tous les petits boulots, et notamment du porte-à-porte, mettre des choses dans les boîtes aux lettres,
des prospectus,
etc. Et mon rêve, c'était d'avoir mon nom sur une boîte aux lettres, et mon rêve, c'est d'avoir un nain de jardin. Alors, c'est pareil. Alors, c'était pas là. C'était le nain de jardin, parce que pour moi, c'était tellement... J'ai changé, hein. C'est plus...
Ah, vous l'avez pas acheté, finalement ?
Non, mais... À Morges, j'explique ça dans une... C'était bouleversant. J'explique ça et le lendemain, il y a deux lecteurs qui veulent acheter des petits nains de jardin. Et j'ai trouvé ça très...
Mais vous racontez hein, dans ce livre que vous êtes très pudique hein, sur... Oui.
Aussi j'ai pas l'air comme ça, mais oui.
Les liens... si, vous avez l'air comme ça.
Oui, mais c'est...
Vous racontez les liens affectifs, on va les appeler avec autant de pudeur que vous les décrivez avec les jeunes femmes que vous allez rencontrer. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de pudeur. Mais quand même, vous avez en commun de rêver d'avoir une adresse à vous. Oui. Et cette histoire de lampe, j'y reviens, pardon. D'abord, je voudrais savoir ce qu'elle est devenue. Où est la lampe ?
Je ne sais pas. Oh. Je crois qu'un déménagement malencontreux est
terminé.
Non, puis surtout, moi j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans dans les choses.
Vous l'avez dévissé.
J'ai un souvenir de moche, oui, un truc.
Ah, où... possiblement, vous l'avez démonté.
Ouais. Puis c'était pas de très, très bonne qualité.
Mais en même temps, c'est très émouvant parce que c'est vraiment deux lignes dans votre texte. Tout d'un coup, hop, vous avez.
Mais vous voyez ce que vous voyez exactement ce dont je parle. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le superflu.
Mais bien sûr.
Et la beauté...
La joie, je reviens.
La joie du superflu, mais oui.
Je reviens à cette histoire, en fait, où on a l'impression que quand même, j'y reviens un petit peu, pardon, on a l'impression que vous avez comme ça des moments de joie intense, mais que le plus difficile, c'est de vous les accorder, parce que vous n'êtes pas autorisé. C'est ce qui transpire de ce livre. Est-ce que je me trompe ?
C'est marrant parce que c'est marrant quand des fois on pense que c'est un journaliste, on se dit ça y est, ma femme a réussi à me faire voir quelqu'un.
Elle m'a payé très cher.
Soit freudien, soit non, mais vous ne vous trompez pas. Non, mais c'est voilà aussi c'est ce qu'on me reproche puisque c'est enregistré, je vais en profiter. Mais ce qu'on me reproche, c'est extrêmement difficile aussi pour j'ai trois filles. Aujourd'hui, je suis un papa, j'ai trois filles. Il y en a une qui est psychologue, l'autre qui fait des études de psychologie, et ma femme elle-même est psychanalyste. Donc voilà. Oui, c'est trop facile. Et elle dit que c'est extrêmement difficile pour nous, et je l'entends hein, vraiment. C'est difficile pour nous de lire tes livres ou de voir dans la presse ou d'entendre que le bonheur n'était toujours pas accessible. C'est extrêmement difficile. Et ça, c'est... Alors, je dis, mais non, mais... c'est vrai que je pense que ça doit être très, très difficile. C'est pour ça que j'ai fait la boutade sur la psychanalyse, mais ça va être extrêmement difficile. J'ai 73 ans. Je suis né sous Vincent Auriol, donc à un moment donné, il faut qu'on en finisse avec ces républiques. Enfin, je parlais de mon âge. Et c'est vrai que continuer de parler de l'enfant battu ou de l'enfant maltraité ou de l'enfant qui n'a pas le droit d'aimer ou d'être heureux, c'est vrai que je pense que pour l'entourage, c'était extrêmement dur. Et
je vous dis juste qu'en lisant votre livre...
Oui, vous avez la porte, donc je peux y aller.
C'est ça. Ouais. J'ai l'impression quand même que ça reste, en tout cas, difficile pour
d'actualité.
Vous. Mais ce petit garçon, ou quel... Parce que quand, voilà, les années de ce livre-là, vous vous faites appeler Kels, parce que tout le monde dans la rue et dans les groupuscules tout le monde a des surnoms.
Des surnoms, voilà. Absolument. Oui.
Donc, hop, vous avez choisi celui-là. Je n'y reviens pas, vous expliquez dans ce livre pourquoi, et puis vous l'avez déjà dit pas mal de fois dans la presse. Mais, quand même, Kels... Il n'y a pas des moments où il n'est pas un peu fier de ce qu'il est devenu? Vous n'arrivez pas à ça?
Alors, fier, non, parce que le doute continue. Moi, je suis désolé, mais je viens ici à Bordeaux, chez Mola, chez vous. J'espère que qu'il y aura quelqu'un dans la salle. C'est important, c'est-à-dire que il y a des gens qui ne doutent pas. Moi, je doute sans cesse.
Sans arrêt. Alors, dans l'autre sens, ce petit garçon, quand vous le regardez,
oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire maintenant que vous avez fait tout ça? Parce que ce petit garçon, nous, ça fait un moment qu'on le lit à travers vous.
Oui, bien sûr. Au fait,
on le connaît bien maintenant.
J'arrête, au fait. Hein.
Ah bon?
Ah oui, mais il faut. Ah ben il faut. Je pense que voilà, le livre de Kels, j'aurais pu appeler ça le livre de Sorge, ça aurait été ridicule, mais je pense qu'il faut arrêter maintenant. Ça y est, j'en dors peu, j'y réfléchis. Ça y est. Je veux dire, je vais pas revenir devant vous avec l'histoire du petit Sorge de 1967 à 1969 ou du mercredi 12 mai. Ouais, ça fait rire, du mercredi 12 mai au 15 mai ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut refermer ça. Et il faut que je le referme. Mais c'est maintenant que je vais le refermer. Ce livre-là referme tous les autres livres sur l'enfance, en fait. C'est difficile pour moi à admettre. C'est difficile en plus à avouer. Mais ça y est, c'est-à-dire qu'il faut il faut que passer à autre chose ou ne plus. Mais en tout cas, je peux pas. Il y a un journaliste, mais bon, moi je suis journaliste, donc j'ai rien contre les journalistes, mais qui dit « Ouh, il y a un filon là, voilà, stop quoi ». C'est-à-dire le filon de l'enfant qui... Surtout pas ça, quoi, surtout pas ça. Et donc, si le petit Sorge, petit Kels, c'était devant moi à 17 ans, ben, je lui dirais « Écoute, toi, ne me fais jamais honte, jamais, ne sois jamais une proie, jamais un prédateur et continue jusqu'au bout de ta vie de défendre les plus faibles, les plus seuls, les plus tristes, les plus différents. Continue.
Vous avez traversé différentes épreuves dans votre vie et puis on le sait à travers votre littérature. Comment vous avez fait pour surmonter des illusions perdues? Parce qu'à nouveau dans ce livre, il y a quelque chose qu'il faut abandonner.
Oui.
Dans d'autres de vos livres, je n'y reviens pas, mais il y a, voilà, vous allez traverser en étant reporter, un très grand reporter. Je fais un peu le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure. Non seulement je dis grand, mais en plus je dis très.
Oui.
Mais parce qu'en même temps, je le pense. Vous allez traverser des événements historiques, politiques,
oui.
Avec beaucoup d'engagement et en même temps, ça va vous arriver plusieurs fois hein, de devoir quand même mettre de côté une illusion. Comment vous avez fait?
C'est plus que mes illusions, ce sont mes rêves, je trouve.
Comment vous avez fait?
Eh ben, je continue à espérer. Chaque matin, chaque jour. C'est difficile d'espérer en Jean-Louis Borloo. Enfin, je sais pas, j'ai pas de nouvelles récentes, hein. Mais
malgré tout, vous y arrivez.
Mais je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que moi, j'ai Moi, je serai toujours le produit de nos grands anciens. Moi, ça partira, ça mourra avec mes enfants, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, etc. Mais moi, je me sens toujours, vous allez dire, mais il n'a pas changé, décidément, je me sens toujours redevable au maquis des Glières, redevable aux fusillés du Mont-Valérien, redevable à tous ces gamins qui sont morts pour que mes petites pétasses de filles aient le droit de dire « Ah, je veux du coca à la maison ce soir ». Je me sens redevable de ça tout le temps, toujours. Et ça ne cessera que jusqu'à ma mort. Et pour eux, au nom de ce combat républicain, de ce combat national qui patriotique, qui fut somptueux pour nous offrir ça, ben je continue d'espérer, je continue de croire. Parce que si j'arrête, soit je suis mort, soit je suis un traître, soit ça, tout ce que j'ai fait n'a eu aucun sens. Au moins, espérons. Alors, je peux pas être dans les cortèges, je suis un peu sur le trottoir, mais j'espère pour eux, j'espère pour nous, mais juste au moins un peu de dignité. J'espère dans la dignité, j'espère dans le respect, j'espère dans plein de mots qui nous portent. S'il n'y a pas ça, si on me dit demain matin, si quelqu'un arrive à la télé en disant fini, c'est fini la dignité, fini le respect, etc., bon, je recommence, qu'on fait des conneries, on retourne à faire des bêtises. Je sais pas.
Je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Kels, vous abordez la question des limites. Et puis vous rentrez à Libération parce qu'en fait c'est les copains qui font Libération, donc c'est normal.
C'est les copains qui font Libération.
Voilà, vous êtes à Libération puisque.
Enfin, je suis à Libération, j'ai pas ma place. D'abord, je fais des petits dessins et puis on dit ah ils dessinent en fait que les. Puis quand les vrais dessinateurs arrivent, ils s'aperçoivent que je suis un escroc. Donc c'est vrai. Puis après on me dit tu veux faire du montage en page, je fais du montage en page. Mais quand les vrais monteurs en page arrivent, qui arrivent de tous les journaux autour, ils ont vu que tout n'arrivait rien qui était droit et tout ça. Et puis j'ai mon rédacteur en chef qui dit écoute, voilà, tu as soit tu t'en vas. Pour moi, s'en aller, c'est il n'y a plus le mouvement, il n'y a plus les copains, c'est la rue, s'en aller. Soit tu rentres à la rédaction, oui. Et puis j'ai fait illusion pendant 34 ans, puisque je suis resté, jusqu'en 2006. Et aujourd'hui, je suis encore au Canard Enchaîné depuis 16 ans. Donc pour l'instant, j'ai pas été débusqué par les vrais journalistes.
Vous croyez encore à la presse aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Ah ben, pour moi, c'est fondamental. J'y crois totalement, mais je trouve même pas que, c'est-à-dire être. Alors, je parle encore une fois des reporters aussi, surtout ceux qui prennent le risque que l'on ne prend pas, ceux qui sont nos yeux. Il y en a de moins en moins, mais il y en a nos yeux, nos oreilles, et qui tombent les uns après les autres. Alors, on fait un petit truc, et puis. C'est être là où on ne peut pas être nous, on n'a pas le droit d'être nous pour nous rapporter ce qui se passe, pour réfléchir, pour progresser ensemble. Bien sûr, j'y crois. La presse belle, la vraie presse, je vais pas citer de nom, mais la vraie presse, celle qui m'instruit et celle qui me fait me dépasser, celle qui me fait réfléchir, c'est celle qui m'apprend à penser contre moi. La vraie presse, et pas qui encourage mes défauts ou des choses comme ça qui flatte les plus bas instincts. Pour moi, la vraie presse, c'est celle qui m'informe de choses que je ne soupçonnais pas, que je n'imaginais pas, et qui me permettent d'avancer. Moi, j'ai un souvenir, si vous le permettez.
Avec joie.
J'avais jamais été en Israël, jamais, donc j'étais plutôt du côté des Palestiniens, tout ça. Puis un jour, je vais en Israël et je suis reçu par des très, très bons copains, de l'agence France Presse. Et nous sommes à Tel Aviv, dans un petit restaurant. Puis voilà. Et puis à la télévision, il y a un documentaire sur des Palestiniens qui sont mariés avec des étrangères. Roumaine, etc. Voilà, c'est un documentaire. Et à un moment donné, dans le documentaire, les Palestiniens qui sont chantent l'hymne palestinien, Biladi Biladi, et l'hymne palestinien qui est chanté à la télévision est traduit en hébreu. Les paroles sont traduites en hébreu à la télévision israélienne. Et mon pote qui me dit, toi, ça peut être simple, hein. C'est inimaginable. Cette scène, pour moi, était inimaginable. Et Et puis lui, qui s'appelle Charlie Wegman, qui a un petit sourire, genre, hein, petit Français, bienvenue dans la complexité du monde.
Oui.
Et ça, je trouve ça formidable.
En écrivant ce roman, on a l'impression que vous avez encore en mémoire, avec une acuité extraordinaire, chaque scène que vous écrivez. Oui. Alors, ça n'a pas dû être facile à écrire. Mais donc, vous avez une mémoire...
J'ai la mémoire de la souffrance. Ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très fort en moi. Quand il nous arrive qu'une chemise soit mal séchée à la maison, on connaît tous la chemise qui est mal séchée, c'est encombrant. Moi, ça me renvoie à la rue, c'est-à-dire que juste l'odeur de la chemise mal séchée, je ressens la totalité de la rue encore. C'est comme si toute cette mémoire-là, en fait, elle est vive. Surtout la rue, je pense. Parce que la rue, j'ai l'impression qu'elle guette toujours. Je pense que lorsqu'on a été à la rue une fois, vraiment, je pense qu'on a toujours peur d'y retourner, quel que soit ce qu'on est, ce qu'on est devenu, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Je pense que c'est une... il suffit d'un deuil, il suffit d'être licencié, il suffit d'un accident de la vie, et la rue, elle est là, la rue. Et donc, j'ai pas eu beaucoup, même pour le LSD, il suffit que je mette un disque des Pink Floyd ou Magouma, que je ferme les yeux et tout remonte. C'est-à-dire que j'ai ça en moi beaucoup plus que d'autres périodes de ma vie. Mais j'ai des choses qui sont en moi, qu'en fait, je me suis aperçu, et c'est pour ça, je m'en suis jamais séparé de ces choses-là.
C'est des choses que vous n'aviez jamais dites ?
Jamais. Alors, avouer. Je n'ai jamais avoué ça. C'est extrêmement difficile d'avouer que j'avais eu aucune éducation, que j'avais eu aucune instruction. C'est difficile d'avouer que j'ai été dans la rue, que c'est difficile d'avouer que j'ai été obligé de voler, que je dormais dans les églises, dans les parkings, que la violence aussi, elle est difficile à avouer. Rentrer dans la violence, sortir de la violence. Tout ça, je pense qu'il fallait à un moment donné, pour refermer tout ça, il fallait que ça soit dit, même pour moi, je pense aussi.
Vous êtes soulagé?
Non, jamais. Non, je suis pas soulagé. Je suis content de voir, alors plutôt des gens de mon âge. C'est pas enfin, autant mon avant-dernier, l'enragé, a pu être aimé par plein de jeunes, etc. Là, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour eux, j'ai l'impression. Alors que je pense qu'il y a. Ils auraient des choses à lire ou à comprendre, mais ce qui me soulage, c'est alors c'est terrifiant, ça ressemble à un tombeau, mais ce qui me soulage, c'est que voilà, ça soit dit. Mon premier roman s'appelait Le Petit Bonzi, c'était sur un enfant bègue, et je l'ai écrit pour dire ben voilà, je suis bègue et c'est comme ça, mes chéris, faut faire avec. Et là, ben, je viens de la rue, ben, faut faire avec.
Dans ce livre, et ce sera ma dernière question, malheureusement, sort Chalandon, régulièrement, vous racontez ce que vous faites, où vous êtes, régulièrement, vous avez comme une pensée pour vos parents.
Oui.
Dans ce livre.
Ma mère aussi, surtout.
Il y a trois passages très importants dans ce livre où tout d'un coup, c'est un peu comme s'il y avait une parenthèse, on est avec vous, et à ce moment-là, vous pensez à vos parents.
À ma mère.
Voilà, et vous évoquez, alors, à votre mère, vous y pensez avec tendresse. Et puis, vous avez tout d'un coup des flashs qui vous reviennent de l'autre, entre guillemets, l'autre étant le nom de votre père dans ce livre. Mais, dans ce livre, vous ne racontez jamais que vous appelez votre maman. Alors que vous avez des copains qui, parfois, appellent leur maman.
Oui.
Et vous n'appelez pas votre maman?
Non.
Jamais?
Non, ben, je peux le dire. Elle voulait pas que j'appelle parce que ça coûtait trop cher, le téléphone.
Vous n'avez pas appelé votre mère?
Bah, très, très peu. Je suis allé la voir. Je lui ai demandé des PCV des fois, qu'elle refusait. Mais c'est une dame comme ça. Mais je suis allé la voir. Je suis allé jusqu'au bout, presque. Mais par exemple, il était dans un EHPAD ravissant. Le mot EHPAD, des fois, mais là, ravissant avec...
Mais là, pour le coup, c'est pas trop ensemble, en général.
Pardon ?
Oui, pour le coup, c'est rarement
mais là, c'était voilà. Là, c'était le cas avec dans le Beaujolais, sur les vignes, etc. Et elle avait donc son petit téléphone sur, enfin, avec fil évidemment, sur sa table. Et on l'appelait de temps en temps et elle décrochait pas parce que elle avait peur que ça nous coûte de l'argent lorsqu'on l'appelle. Donc, je crois que c'est l'une des choses les plus tristes. Ça, c'est le rendez-vous manqué avec un papa puis une maman en fait. Mais tous, on a tous plus ou moins ça de façon violente ou moins violente. Mais lorsqu'elle est morte, enfin lorsque mon père est mort, pardon, et là ça donne une image absolument sidérante de l'emprise dans laquelle elle était. Lorsque mon père est mort, elle a dit mort et c'était fini. On revenait de la cérémonie. Elle a dit demain je change les clés de l'appartement. Et on lui a dit mais il est mort. Et elle a dit tu sais avec ton père on ne sait jamais. Et je trouve que c'est une Ça restera sur mon cœur pour ma vie entière.
Êtes allé à l'enterrement de votre père quand il est mort ?
Bien sûr. Non, c'était pas un enterrement, c'était un funérarium. Nous étions, il y avait mon frère et moi. Les croque-morts étaient 10 fois plus nombreux. C'était terrible d'ailleurs, parce qu'avant nous, il y avait un vrai enterrement, un vrai avec toute une famille. Après nous, toute une famille. Puis nous, il y avait plein de chaises vides derrière. Et là, je vais essayer de vous faire sourire un petit peu parce que. Et donc, nous sommes assis, les gens des pompes funèbres sont en face de nous, le cercueil au milieu, et un grand silence, on ne bouge pas, personne ne bouge, ma mère ne bouge pas. Un geste peut-être pour le défunt, ma mère dit qu'est-ce qu'il dit ? Je dis, donc je l'aide à se lever. Et je pose ma main. Ah, qu'est-ce que tu fais, maman, s'il te plaît. Je pose sa main sur son cercueil. Je mets ma main sur le sien. Et là, elle a cette phrase qui est tellement jolie. Elle regarde et dit, vous êtes sûr que c'est lui ? Il me paraît plus petit. Et là, tu fais quoi ? Tu pleures, tu ris, et ta vie entière, tu regrettes qu'elle n'ait pas connu ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et toute ma vie, j'ai cru qu'il était plus petit. Mais ce « vous êtes sûr que c'est lui », c'est l'expression de la peur la plus folle.
Merci beaucoup, Serge Chalon.
Mais merde, je vous en prie.